À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est à Monsieur Pierre Messmer, chancelier de l'Institut de France, ancien Premier ministre, que Canal Académie consacre cette journée. Qui est Pierre Messmer? Quelles sont les convictions qui animent sa vie et ses actions? Il n'est pas si simple de répondre à ces questions parce que Pierre Messmer lui-même avoue qu'il a vécu 3 vies en même temps. Écoutez la manière dont il s'explique sur ce point, Fernand Guillot.
J'ai eu le temps de vivre 3 vies. Soldat pendant la guerre, administrateur en Afrique et en Extrême-Orient à la veille de la décolonisation, ministre de la Ve République pendant la seconde moitié de cette période prospère qu'un économiste a dénommée les Trente Glorieuses. L'espoir, rarement accompli mais jamais perdu, de réaliser l'idée que je me fais de la France a été le ciment de ces 3 vies. Espoir de libérer la patrie occupée par l'ennemi et de lui rendre son indépendance, espoir de réussir la décolonisation pour que la France retrouve sa vocation libératrice, espoir de développer le pays pour élever le niveau de vie des Français et défendre la nation si elle était menacée. Comme tout homme qui se penche sur son passé, je cherche à mesurer l'écart, séparant mes espérances et les réalités. La vie académique peut-elle m'en donner le loisir ?
3 vies en une seule, si l'on tente de résumer la carrière de Pierre Messmer, c'est bien à cette conclusion que l'on se doit d'aboutir. Juste avant que Marianne Durand-Lacaze ne nous rappelle les grandes étapes de la carrière de Pierre Messmer, un mot de son enfance, ce qu'il en dit lui-même à Philippe de Saint-Robert, c'est un extrait de leur livre intitulé « Ma part de France », Fernand Guillot.
Oui, j'ai eu une enfance heureuse, mais qui a été très marquée par le fait que ma famille alsacienne avait opté pour la France en 1871. Mon grand-père, qui avait à cette époque 18 ou 19 ans, n'avait pas voulu rester en Alsace parce qu'il serait devenu allemand. Il a donc opté pour la France. À l'époque, on n'était pas trop généreux avec ce qu'on appellerait maintenant des réfugiés. Et pour que ces jeunes Alsaciens montrent leur patriotisme français, on les invitait à faire 3 ans de service militaire en Algérie. Ce fut le cas de mon grand-père. Mon grand-père a servi 3 ans aux chasseurs d'Afrique en Algérie et ensuite est venu s'installer à Paris. Ce qui explique que je suis né à Vincennes, ville charmante dans la banlieue parisienne. Je suppose que mes parents, mes grands-parents, avaient une espèce de tropisme vers l'est de la France. En réalité, 2 ou 3 ans après ma naissance, mes parents se sont installés à Paris même, d'abord rue Saint-Maur, dans l'immeuble où se trouvait l'usine que dirigeait mon père, et puis ensuite, quand j'avais 10 ou 12 ans, ou 11 ans, je ne sais plus, boulevard Saint-Michel, dans le haut du boulevard, à la hauteur de l'avenue de l'Observatoire, un quartier à la fois prestigieux et aéré, dont j'ai gardé le meilleur souvenir. J'ai de mon enfance, grâce à ma famille, en particulier grâce à mes parents, mais aussi grâce à mon frère et à ma sœur, un très bon souvenir. J'étais un enfant et un jeune homme heureux. Toutes mes études secondaires se sont passées à Massillon et à Charlemagne. Pourquoi Massillon ? Parce que c'était une école, c'est toujours une école libre, dirigée par les oratoriens. Après mon bachot, j'avais décidé de préparer le concours d'entrée à l'école coloniale qui a changé de nom 2 ans plus tard et s'est appelé, quand j'y étais, École nationale de la France d'outre-mer. Il y avait 3 préparations à Paris, dont une à Louis-le-Grand. Il y avait 2 classes préparatoires à Louis-le-Grand et il y en avait une à Pasteur, je crois, et une à Henri IV. En 1934, j'ai été reçu au concours et je suis entré à l'école coloniale qui avait pour raison d'être de préparer des administrateurs et des magistrats pour la France d'outre-mer.
C'est donc en termes de bonheur que Pierre Messmer juge son enfance et son adolescence. Après le temps des études vient celui d'entamer une grande carrière. Marianne Durand-Lacaze nous en rappelle les principales étapes.
Alors, Pierre Messmer est diplômé de l'École nationale des langues orientales vivantes, diplômé également de l'École nationale de la France d'outre-mer et docteur en droit. Il a tout d'abord été sous-lieutenant au 12e régiment de tirailleurs sénégalais de 1938 à 1940. Il rejoint dès juin 40 les forces françaises libres, où il a été affecté à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère comme chef de section puis commandant de compagnie. Il a participé aux expéditions de Dakar et du Gabon, aux campagnes d'Érythrée, de Syrie, de Libye, de Tunisie. Voilà pour les années qui précèdent la guerre et la période de la guerre. En 1944, Pierre Messmer est affecté à l'état-major du commandant en chef des forces françaises libres à Londres et débarque en Normandie. En 1945, il prend le commandement de la mission française à Calcutta, puis est parachuté au Tonkin où il est fait prisonnier. Il s'est évadé, rejoint les forces françaises, puis est démobilisé en 1946. Il est alors nommé en qualité d'administrateur au comité interministériel pour l'Indochine, puis devient directeur du cabinet au haut-commissaire en Indochine de 47 à 48 et administrateur en chef de la France d'outre-mer en 1950. À partir de 1950, il accomplit sa carrière en Afrique française, où il a été commandant du cercle d'Attar en Mauritanie de 1950 à 1952, gouverneur de la Mauritanie 1953-1954, puis dans la Côte d'Ivoire de 1954 à 1956, et ensuite directeur du cabinet de Gaston Defer, ministre de la France d'Outre-mer, Pierre Messmer devient haut-commissaire de la République au Cameroun de 1956 à 1958. Puis, toujours en Afrique, équatoriale française, à Brazzaville, et enfin, haut-commissaire général de la République en Afrique occidentale française à Dakar de 58 à 59. Dans les années 60, Pierre Messmer a ensuite été nommé ministre des Armées, poste qu'il a occupé sans interruption de 1960 à 1969. Il y a mis en place les forces nécessaires à la dissuasion nucléaire de la France. Il a été ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer en 1971 et 1972. Et le président de la République, Georges Pompidou, l'a appelé pour exercer les fonctions de Premier ministre de 1972 à 1974. Parallèlement, il a occupé de nombreuses fonctions électives. Il a été député de la Moselle de 1968 à 1988, pendant 20 ans, maire de Sarrebourg de 1971 à 1989, conseiller général de la Moselle, président du conseil régional de Lorraine, conseiller régional de Lorraine de 1986 à 1992 et président du groupe RPR de l'Assemblée nationale de 86 à 88. Enfin, Pierre Messmer a présidé la Fondation Charles de Gaulle de 1994 à 1995.
Eh bien, on reste ébloui, en effet, Marianne, devant une carrière si bien remplie, si brillante et qui permet tout à fait de comprendre comment Pierre Messmer et pourquoi Pierre Messmer peut dire qu'il a vécu trois vies en une seule. Et cependant, je crois qu'à ces trois vies, il faut en ajouter une quatrième et non des moindres, la vie académique. Une vie qui occupe Pierre Messmer depuis 1988, puisque c'est le 15 novembre 1988 qu'il a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques dans la section générale au fauteuil laissé vacant par le décès de l'ambassadeur Léon Noël. Pierre Messmer ensuite a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques de 1995 à 1998 et il est aujourd'hui chancelier de l'Institut de France depuis le 1er janvier 1999. Enfin, il faut ajouter qu'il est également membre de l'Académie française. En tant que chancelier de l'Institut de France, Pierre Messmer s'est particulièrement attaché à développer le concept des fondations. Tandis qu'il était secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Pierre Messmer a fondé en 1996 une fondation culturelle franco-taïwanaise avec Madame Cheng Suming, alors présidente du Conseil national des affaires culturelles de Taïwan. Cette fondation a pour objet, dans le cadre des missions de l'Académie, de récompenser chaque année une œuvre artistique ou littéraire mettant en lumière les rapports entre l'Europe et Taïwan. L'attribution du prix de la Fondation est décidée par un jury. Ce jury est composé de membres de l'Académie des sciences morales et politiques, de membres du Conseil national des affaires culturelles de Taïwan et de sa présidente qui a rang de ministre. Parmi les lauréats, au fil des années, on peut compter l'Institut des langues et civilisations orientales, l'École française d'Extrême-Orient, la mission à Taïwan des pères des missions étrangères de Paris et d'autres encore. En 2003, c'était la Maison des cultures du monde qui était distinguée par ce prix. Et à l'occasion de la remise de ce 8e prix, évidemment, Pierre Messmer a prononcé un discours dont Fernand Guillot nous lit maintenant un bref extrait.
Cette année, pour la première fois, nous avons décidé d'agir dans le domaine artistique en récompensant le travail fait à Paris par la Maison des cultures du monde pour faire connaître et reconnaître la culture taïwanaise. On ne saurait trop insister sur le rôle éminent que peuvent jouer les échanges culturels dans les relations amicales entre les peuples. Dans un monde soumis au lent mouvement de la globalisation des échanges, mais aussi à l'uniformisation croissante des modes de vie, le rappel des spécificités culturelles occupe une place essentielle pour l'équilibre de l'être humain. La question qui se pose à nous aujourd'hui est en effet de faire tenir ensemble l'utopie d'une humanité unifiée et le légitime besoin d'identité des peuples. La culture peut être l'agent efficace de cette conciliation. Elle revêt deux aspects différents, voire contradictoires. La culture est source d'identité et donc de séparation. La liberté des peuples passe, en effet, par la conscience qu'ils ont de leur spécificité. Dans ce sens, la culture peut être certes source de conflits, mais le développement des échanges culturels entre peuples libres permet également de reconnaître l'autre dans sa dignité d'étranger et dans sa puissance de remise en cause de nos horizons étroits. Mais la culture, parce qu'elle est la pointe ultime des efforts du génie humain, revêt aussi une capacité d'accéder à l'universel. Que des spectacles nés dans des cultures éloignées de la nôtre puissent éveiller plus que de la curiosité ethnographique, qu'ils puissent susciter des émotions réelles, malgré leur étrangeté. Voilà bien une preuve de la fraternité des hommes. La mission de la Maison des cultures du monde réside dans ce double déploiement qui nous fait passer, nous spectateurs, de la connaissance et du respect de l'autre à la contemplation de nos destinées communes. Ce mouvement est celui de l'amitié elle-même. C'est pourquoi le prix que nous allons remettre aujourd'hui marque avec force le rôle que nous entendons voir jouer à la Fondation culturelle franco-taïwanaise, renforcer les liens amicaux entre nos deux peuples.
Ce passage du discours prononcé par Pierre Messmer lors de la remise du 8e prix de la Fondation franco-taïwanaise était extrait de la revue Position et Médias qui en a reproduit l'intégralité dans son numéro 25 daté de mars 2004. L'écriture tient également une place importante dans la vie de Pierre Messmer. Faut-il faire remonter ce goût d'écrire à la rédaction de sa thèse de doctorat en droit ? Nul ne le sait, mais cette thèse datée de 1939 portait un titre savant, le régime administratif des emprunts coloniaux. Par la suite, Pierre Messmer a publié plusieurs ouvrages dont Marianne Durand-Lacaze nous rappelle les titres.
Alors, il a écrit « Le service militaire » publié en 1977 chez Ballant, qui est un débat avec Jean-Pierre Chevènement. Il a également écrit l'histoire de Sarrebourg en 1981, les écrits militaires de Charles de Gaulle en 1985, après tant de batailles, le titre de ses mémoires en 92 et les blancs s'en vont, récit de décolonisation.
Donc les mémoires, c'est après tant de batailles, c'est bien cela.
Voilà, ouvrage publié en 1992 et effectivement c'est un ouvrage un petit peu
important. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres ouvrages plus récents?
Plus récemment, en 2001, La Patrouille perdue et autres récits extraordinaires, paru chez Albin Michel. Et en 2003, Ma part de France, entretien avec Philippe de Saint-Robert, paru aux éditions de Guibert.
François-Xavier de Guibert, en effet, nous avons déjà eu l'opportunité tout à l'heure de signaler cet ouvrage, Ma part de France, qui est un dialogue avec Philippe de Saint-Robert, dialogue qui s'est d'ailleurs effectué en grande partie ici, à l'Institut de France. Mais maintenant, c'est justement un extrait de l'ouvrage de Pierre Messmer intitulé La patrouille perdue et autres histoires extraordinaires que Canal Académie vous propose de découvrir. Mais avant que Fernand Guillot ne nous en fasse la lecture, Marianne, pouvez-vous en quelques mots nous présenter cet ouvrage?
Alors, La patrouille perdue n'est pas à proprement parler un livre de mémoire, mais plutôt un livre qui reprend quelques souvenirs en les relatant comme des histoires extraordinaires. Puisant dans les souvenirs de sa vie aventureuse qu'il a menée du désert de Libye au Tonkin et en Afrique équatoriale, Pierre Messmer a retenu quelques épisodes authentiques, inattendus, souvent cocasses, parfois bouleversants. Par exemple, de l'épopée d'une patrouille perdue à la chute du fort italien Vittorio Emanuele, des ravages que la passion amoureuse peut provoquer au cœur du conflit indochinois.
C'est pas lui qui est amoureux, je le dis tout de suite, j'ai lu l'histoire.
Sans oublier l'épisode de l'étrange condamnation à mort d'un caporal ou la rédemption d'un policier en Afrique, Pierre Messmer prend à rebours l'histoire officielle. Il porte sur chacun de ces moments un regard décapant, à la fois tendre et ironique. Pour que nos auditeurs puissent parfaitement resituer dans son contexte l'épisode intitulé « L'heureuse condamnation à mort du caporal Le Chien », rappelons que l'histoire se déroule en Érythrée, dont la capitale Asmara fut occupée par les Italiens. En effet, après la défaite à Keren, en mars 1941, l'armée italienne d'Afrique orientale entra en décomposition. Les soldats italiens, découragés, se repliaient en désordre et se laissaient faire prisonniers sans résister. Quant aux Africains, les Askaris, ils se démobilisaient et rentraient chez eux. Asmara, la capitale de l'Érythrée, a été occupée sans combat par les Anglais. Restait Massawa, principal port sur la mer Rouge que Mussolini avait donné l'ordre de défendre. Une brigade de l'armée des Indes et la brigade française d'Orient reçurent celui de s'en emparer. Sur terre, la ville fut encerclée, tandis que la Royal Navy renforçait le blocus maritime. L'histoire de l'heureuse condamnation à mort du caporal Le Chien, ainsi qu'elle est intitulée au chapitre 2 de La patrouille perdue, relatée par Pierre Messmer dans son ouvrage, commence là.
Là, c'est-à-dire à Massawa.
La capitulation de Massawa avait mis fin à la guerre en Érythrée. L'armée du Duce n'existait plus. Les Italiens étaient prisonniers et leurs tirailleurs, les Askaris, avaient massivement déserté pour rentrer chez eux. Les Anglais occupaient maintenant la capitale Asmara et le port principal Massawa. Ils avaient délivré quelques dizaines de prisonniers anglais, soudanais, hindous, faits au cours de la campagne par les Italiens, qui les avaient bien traités. Parmi eux, un seul Français, légionnaire, le caporal Le Chien, disparu au soir d'un combat malheureux à Lanjarat, non loin de Keren. Le colonel Monclar, commandant la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, tenait pour un déshonneur qu'un légionnaire eût été fait prisonnier. Son irritation se transforma en indignation lorsqu'il prit connaissance du procès-verbal de l'interrogatoire du dit légionnaire par les officiers de renseignement italiens. Il faut rappeler que, conformément à la Convention de Genève, un militaire fait prisonnier doit et peut refuser tout renseignement autre que son nom, son grade et son numéro matricule. Or, le malheureux Le Chien, interrogé après avoir été bien, trop bien, traité au Chianti, avait livré le numéro de son régiment et l'identité de son colonel. Crime abominable. Le colonel décida que le caporal Le Chien serait traduit en conseil de guerre sous l'inculpation de trahison passible de la peine de mort. Il constitua aussitôt un tribunal, conformément au code de justice militaire, ou plutôt à l'idée qu'il s'en faisait, puisque ce document nécessaire ne se trouvait pas dans les archives de la brigade d'Orient. On savait tout de même qu'il fallait donner à Le Chien un défenseur. Personne ne s'étant porté volontaire pour cette corvée, Le colonel me désigna d'office, sous prétexte que j'étais docteur en droit. Je lui expliquai vainement que j'étais spécialiste de droit administratif et que mes médiocres connaissances en droit pénal n'étaient pas à la hauteur d'un procès aussi grave. Il ne voulut rien entendre. Je me résignai donc à obéir. 3 jours plus tard, le conseil de guerre fut réuni dans le mess des officiers de marine italiens sous la véranda dominant la mer Rouge. Les ventilateurs étaient en panne, mais la brise de mer qui soufflait doucement rendait la chaleur supportable. Faute de juge d'instruction, l'affaire fut instruite à l'audience sous la présidence d'un officier sérieux, impartial, et dont le souci était d'établir autant que possible la vérité. Les témoins, tous légionnaires, comparurent et firent un récit que je résume. Au soir d'une attaque qui avait échoué pour s'emparer de l'Enjarat, montagne dominant la plaine de Keren, le médecin-chef de la Légion constitua 3 équipes de brancardiers pour rechercher et relever plusieurs blessés restés sur le terrain entre les positions italiennes au sommet de l'Enjarat et françaises sur la montagne qui lui fait face à 800 mètres environ. L'une de ces équipes, 3 hommes et un caporal, était commandée par le caporal infirmier Le Chien. Sa mission était de suivre l'Oued entre 2 montagnes jusqu'à un point d'eau situé non loin de son embouchure dans la plaine. L'équipe se mit en marche au début de la nuit, claire où brillait la lune dans un ciel sans nuages. Parvenu sans encombre non loin de la source, un légionnaire blessé qui s'était réfugié et caché dans un éboulis de rochers l'appela doucement. Le Chien lui posa vite et bien un pansement provisoire sur une méchante blessure à la cuisse, pendant que Ricardou lui faisait boire un peu d'eau. Le blessé mourait de soif. On le déposa sur un des 2 brancards. Ricardou proposa d'aller plus loin pour relever d'autres blessés, s'il y en avait. « On rentre !» commanda le caporal Le Chien qui se sentait mal à l'aise dans ce no man's land. Le retour, en remontant l'Oued tortueux, tantôt rocheux, tantôt sablonneux, fut pénible. La lune était couchée et le ciel n'était plus éclairé que par les étoiles. Le Chien, anxieux et pressé d'en finir, engueulait à voix basse les brancardiers qui peinaient, 2 transportant le blessé, 3e un brancard vide. Pendant une pause, Ricardou proposa de relever un des brancardiers et demanda au caporal de prendre la place de l'autre. Le Chien, petit homme grassouillet, doux, ennemi du danger et de l'effort, refusa, arguant de son grade. Les 3 légionnaires insistèrent et Ricardou menaça « Si tu ne prends pas le brancard, je te descends !» Il appuya sa menace d'une grenade qu'il empoigna. Le Chien, paniqué, courut se réfugier derrière un rocher. « Reviens ! Reviens !» cria Ricardou et reprends ta place !» Le Chien resta muet. On entendit seulement rouler quelques pierres. Ricardou, furieux, dégoupilla la grenade et la lança derrière le rocher. Elle explosa dans le silence de la nuit. Les légionnaires allèrent jusqu'au rocher. Personne. Ils appelèrent le Chien, qui ne répondit pas. « Cela fera un salaud de moins, » conclut Ricardou, qui prit le commandement de l'équipe. Au retour, il rendit compte que le caporal Le Chien s'était égaré dans les éboulis de rochers et qu'il avait été impossible de le retrouver. Les 2 autres légionnaires et le blessé confirmèrent ce récit, qui n'était pas faux, mais pas tout à fait vrai. Personne ne parla de la grenade. Pendant quelques jours, on espéra le retour de Le Chien. Cet espoir, que ne partageaient pas Ricardou et ses complices, fut déçu. En réalité, grâce à la protection des rochers, le caporal avait échappé aux éclats de grenades. Indemne, il s'était caché, laissant s'éloigner et disparaître dans la nuit l'équipe des brancardiers. Au moment où il repartait, il tomba nez à nez avec une patrouille italienne à laquelle il se rendit sans résistance. Conduit au PC du régiment, puis au quartier général de la division, il fut interrogé par des officiers parlant parfaitement le français. sans le maltraiter d'aucune façon, ils n'eurent aucun mal à tirer de lui ce qu'ils savaient, rien d'important. Après la capitulation italienne en Érythrée, le rapport d'interrogatoire fut remis par les Anglais entre les mains du colonel Monclar, qui le transmit au Conseil de guerre. Le procès ne dura qu'une seule journée. Chacun était pressé d'en finir. La matinée fut employée à entendre les témoins pour établir les faits que je viens de résumer. Dans l'après-midi, après l'interruption du repas, le commissaire du gouvernement, homme au cou fort et rouge et aux idées bien arrêtées, soutint l'accusation et je présentai la défense. Je n'avais aucune sympathie pour le chien que je tenais pour un lâche, mais j'étais indigné par ce procès bâclé. L'indignation me motivait, mais le défaut d'expérience me rendait maladroit. Je commençais par mettre en doute la régularité de la procédure. Ce conseil de guerre avait été constitué par un officier qui n'en avait pas le pouvoir. Il ressemblait à une cour martiale, jugeant sans instruction et sans appel. Aujourd'hui, n'importe quelle juridiction me donnerait raison sans hésiter, mais nous étions en temps de guerre. Je compris très vite que je mettais mal à l'aise les juges qui avaient au fond les mêmes doutes que moi, mais ne pouvaient pas accepter que je conteste leur légitimité. Le président m'en fit sèchement l'observation, m'invitant à me limiter à la défense de l'accusé. Il me fallait en venir au fond, sur lequel je n'étais pas très bon. S'agissant de l'accusation de trahison, j'observai que le chien n'avait pas dit grand-chose. Reconnaître que le vrai nom du colonel Monclar était Magrin Verneret et que la 13e DB de la Légion étrangère avait débarqué en février à Port-Soudan venant du Cameroun après avoir fait le tour de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance ne compromettait pas la sécurité de notre brigade ni celle de nos alliés. Pour le caporal infirmier, le malheur était que ses déclarations avaient été spontanées. Il n'avait pas été tabassé par ses gardiens, ni menacé de la mort, prévue pour les Français libres par l'armistice franco-italien de 1940, violant sur ce point le droit de la guerre. Le chien disait qu'il avait été bien traité, et son attitude laissait même soupçonner qu'il regrettait son état de prisonnier à l'abri des peines et des dangers de la guerre. Le commissaire du gouvernement, dans son réquisitoire, avait méchamment et habilement lancé une nouvelle accusation. Se fondant sur les aveux de Le Chien et le rapport italien, il avait observé que notre caporal s'était rendu sans aucune résistance à la patrouille ennemie, ce qui ressemblait beaucoup à une désertion. Et chacun sait ce qui attend un déserteur en temps de guerre. J'argumentais, invoquant l'obscurité nocturne propice aux surprises, l'émotion causé par l'explosion de la grenade, et surtout que le chien était le seul soldat français fait prisonnier pendant cette campagne d'Érythrée, que notre victoire l'avait libéré et qu'il était étrange de le juger, alors que plus d'un million et demi de prisonniers français étaient détenus en Allemagne en ce mois d'avril 1941. Cet argument de bon sens provoqua la colère du commissaire du gouvernement, qui, sortant de son rôle, prit la parole après la fin de ma « mauvaise » plaidoirie, pour rappeler que nous, Français libres, avions choisi de continuer la guerre, ce qui nous imposait d'être plus exigeants pour nous-mêmes que pour les autres. Il avait raison. Au président qui lui demandait s'il avait encore quelque chose à dire pour sa défense, le chien, très passif durant son procès, déclara que tous ses malheurs venaient de l'indiscipline des brancardiers et qu'il voulait quitter le régiment pour être affecté dans un hôpital militaire. Il rêvait. Le tribunal se retira. Je me rassis en sueur, sentant que j'avais tout faux. La brise avait cessé et la mer rouge brillait comme du plomb fondu. La délibération du conseil fut expédiée en un quart d'heure, très mauvais signe. Le verdict tomba comme le couperet d'une guillotine. Dégradation militaire et peine de mort. Sur le coup, je me demandais si ce jugement tellement exagéré était une énormité ou un enfantillage. Je ne pouvais pas y croire. Le chien non plus, à en juger par son absence de réaction. Une demi-heure plus tard, j'étais dans le bureau du colonel Monclar. Il savait et semblait soucieux. J'en profitai, évitant de répéter mon plaidoyer maladroit et inefficace. Tout au contraire, je rendis hommage au conseil de guerre sans contester la sanction exemplaire qu'il avait décidée. Je conviens, mon colonel, qu'il est nécessaire de procéder sans délai à la dégradation militaire. Quant à la peine de mort, je vous demande d'attendre la réponse ou recours en grâce que je vous présente, en vous priant instamment de la transmettre au général de Gaulle. Ce recours hiérarchique, classique dans l'armée, ne choquait pas Monclar et lui permettait de sortir honorablement d'une situation qui l'embarrassait d'autant plus qu'il s'en savait responsable. Remettez-moi le recours en grâce, je le transmettrai avec un avis favorable. Ainsi fut fait. Mais de Massawa à Londres, le courrier était lent. Le fax et Internet n'existaient pas encore. En attendant la réponse, que faire d'un condamné à mort en expectative de grâce? Nous n'avions pas de prison en Érythrée, nous ne voulions pas le livrer aux Anglais qui n'auraient su qu'en faire, et il n'était pas question de le renvoyer sous escorte en Afrique équatoriale ou au Cameroun. Faute de mieux, Monclar décida de garder le chien au régiment. Il nous accompagna 2 semaines plus tard, au milieu du mois de mai, quand un beau paquebot de la Compagnie des messageries maritimes, le président Doumer, nous transporta jusqu'au canal de Suez, d'où nous fûmes aussitôt dirigés vers le camp de Castina, en Palestine, sous administration britannique. J'avais désormais d'autres soucis que le chien. De Gaulle avait décidé d'entrer en Syrie et au Liban avec les Anglais, ce qui nous condamnait à combattre les Français de l'armée de Vichy. Plusieurs officiers de la demi-brigade, colonel Monclar en tête, et aussi le capitaine de Lamaze, mon commandant de compagnie, s'y refusaient, invoquant l'acte d'engagement qu'ils avaient signé en juillet 1940 qui permettait l'objection de conscience dans ce cas précis. La campagne de Syrie reste un de mes plus mauvais souvenirs. Après l'armistice de Saint-Jean-d'Acre en juillet, la 13e DB de la Légion étrangère, renforcée par le ralliement à la France libre du 6e étranger, le régiment de Légion stationné au Levant, prit garnison à Homs, ville austère déjà marquée par l'islam intégriste. Elle s'y réorganisa avant d'être dirigée sur la Libye à la fin de l'année. Promu capitaine, je partis à la mi-décembre en détachement précurseur et sur le chemin, je m'arrêtai 2 jours à Damas pour régler divers problèmes administratifs. J'en profitai pour visiter la ville que j'avais seulement traversée fin juin quand les troupes de Vichy s'en retiraient. J'aime me promener dans les marchés ou les quartiers commerçants partout dans le monde. C'est un contact simple et sympathique avec le pays et un bon moyen de le connaître. Déambulant un matin dans le souk, je me trouvais nez à nez avec le chien. Habillé d'un pantalon et d'une chemise kaki, usagé mais propre, le teint rose et l'œil bleu, il paraissait heureux et bien portant. Je savais qu'il avait été gracié et enfermé dans la prison de Damas. Je m'étonnais de le voir libre, accompagnant une femme française et porteur d'un panier de provisions qu'il posa aussitôt. Il se mit au garde-à-vous et, après m'avoir salué militairement, me remercia de l'avoir défendu devant le conseil de guerre. Comme je lui demandais ce qu'il faisait dans le souk, il m'expliqua qu'il était au service du gardien-chef de la prison et qu'il accompagnait madame dans ses courses en ville et en fait le serment de ne pas s'évader. Je le crus volontiers. Indifférent au déshonneur, il s'était adroitement organisé pour survivre à la guerre. Dans la situation d'un déserteur légal, il avait réalisé son rêve. Ricardou, son précurseur, l'homme qui lui avait balancé une grenade, eut un autre destin. Grièvement blessé en Syrie, il fut amputé d'une jambe. Après plusieurs mois d'hôpital, il refusa d'être réformé et réussit, je ne sais comment, à se faire muter dans l'aviation. Affecté comme mitrailleur dans un équipage de bombardiers, en juin 1944, quelques jours après le débarquement, son avion fut abattu en Normandie. Il n'y eut aucun survivant.
Extraordinaire histoire, en effet, que celle du caporal Le Chien, lue par Fernand Guillot et relatée par Pierre Mesmer dans son ouvrage « La patrouille perdue et autres histoires extraordinaires », car il y en a d'autres, en effet. Cet ouvrage est paru aux éditions Albin Michel en 2002. Après une courte pause musicale, je vous propose de nous retrouver pour continuer cette émission.
Perché fino a farmi languir così? Perché, crudel, farmi languir così? Dunque in giardin verrai.
Canal Académie consacre cette journée à M. Pierre Mesmer, chancelier de l'Institut de France, et vous propose maintenant d'écouter M. Mesmer lui-même. En effet, comme on peut s'en douter, dans le cadre de ses activités académiques, Pierre Mesmer est l'auteur de nombreuses communications, soit en séance solennelle, soit en séance hebdomadaire. Les séances de l'Académie sont toujours ouvertes au public, je vous le rappelle, et si vous avez envie d'y assister, vous pouvez vous présenter à l'entrée du Palais de l'Institut, 23 quai Conti. Celles de l'Académie des sciences morales et politiques ont lieu chaque lundi après-midi à 15h précise. Donc, parmi les communications en séance publique de Pierre Mesmer, certaines ont fait date, notamment celle du 20 novembre 1995, intitulée « Les interventions militaires extérieures de la France ». Évidemment, Pierre Mesmer, ancien ministre des armées, rappelait que l'armée française était fréquemment appelée à intervenir à la demande de l'ONU pour faire respecter les grands principes humanitaires, reconnus mais souvent violés, pour aider les organisations non gouvernementales à secourir les populations en détresse, en Afrique tout particulièrement, mais aussi dans d'autres pays du monde. Pierre Mesmer analysait dans cette communication les succès, mais aussi les échecs rencontrés par la France dans ses interventions. Et une autre communication en séance publique annuelle de Pierre Mesmer fut remarquée, celle du 16 novembre 1998, consacrée à la mondialisation, une synthèse qu'il fit des espoirs et des déceptions du libre-échange à l'échelle mondiale. Je vous précise que les archives de Canal Académie vous permettent de télécharger à ce jour deux des communications prononcées récemment par Pierre Mesmer. La première, De Gaulle en direct, c'est une communication qu'il a prononcée dans la série annuelle consacrée aux personnages et caractères en l'année 2003, donc le 20 octobre 2003. Et la seconde communication est intitulée « La nouvelle problématique de la construction européenne ». Elle clôturait d'ailleurs la série annuelle 2004 qui, elle, était consacrée à l'Europe.